Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 71, Daf Ayin Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Alors le Daf Ayin Aleph qui porte la suite de la réponse. Donc première chose, de prendre une femme qui lui convienne. Ensuite, Vikadesh Atzmo Beshahat Hashmis, qu'il ait la pureté au moment où il a des relations conjugales. Rashi explique, il s'agit d'avoir des relations de la manière la plus discrète possible. Amrou, les sages d'Alexandrie lui ont répondu, Arbe Asuken Velo Aoilou. Beaucoup de maris ont procédé ainsi, et ceci ne leur a pas réussi. Amar Lahem, alors, Rabbi Yoshua leur a ajouté, la réponse évidemment identique aux réponses précédentes, et Vakesh Rachamim et Mishabanim Shelo. Il doit également faire des supplications et des prières, des tfilotes, à celui qui est détenteur des garçons. Chez Neymar, ainsi que le dit un verset de Tehilim dans le chapitre 127, le pasuk 3, Hine nachalat Hashem banim. Voici que l'héritage donné par Hashem, ce sont des enfants. Sachar peri habaten, c'est la récompense du fruit du ventre. Littéralement. Plus loin, la Gemara expliquera cette deuxième partie du verset. La Gemara demande Maïke Mashmalan, qu'est-ce que Rabbi Yeshua est venu nous apprendre en disant qu'une personne doit se marier avec la femme qui lui convient, et également avoir une attitude digne et sainte au moment des relations conjugales, de ha, belaha, la sagi. Que l'une des démarches sans l'autre, c'est-à-dire soit ce comportement sans la tfila, soit la tfila sans ce comportement, la sagi n'est pas suffisant. La Gemara demande Maï Sachar Peri Habaten. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la récompense du fruit du ventre. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Rabbi Chama, le fils de Rabbi Chanina, il a répondu. Alors pour comprendre cette réponse, il faut se rappeler que la Gemara dit, par ailleurs, je crois que c'est dans notre Daf, dans notre Maseret, à la page Lamed Aleph, que si le mari est le premier à émettre sa semence, l'enfant à naître sera une fille. Et si c'est la femme qui est la première à émettre sa semence, l'enfant à naître sera un garçon. Et donc Rabbi Chama ben Rabbi Chanina, il a répondu, Bisrar, par la récompense, chez Mashin Atzman Babeten, qu'ils attendent alors qu'ils sont littéralement dans le ventre. Et pourquoi est-ce qu'ils attendent? Que Deshetazri Aishto Techila, afin que sa femme soit la première à émettre sa semence. Autrement dit, comme le disent les commentaires, le mari maîtrise son propre plaisir pour laisser la femme atteindre le plaisir d'abord, et ainsi que la semence émise par la femme, qui est celle qui est la plus apte à donner des garçons, soit la première à être émise. Alors, grâce à ce mérite, c'est Azria Ishto Techila, pour que sa femme ait une semence en premier, noten lo Akadosh Baruch Hu Sachar, Akadosh Baruch Hu lui donnera en récompense, peri abaten, le fruit désiré du ventre, si l'on peut dire, c'est-à-dire, comme l'expliquent les Mefarshim, dans des garçons. Nous avons ainsi terminé les 12 questions posées par ces Chachmei Alexandria à Rabbi Yoshua ben Hanania, et la Gemara reprend le passage suivant de la Mishnah, Bet Shammai Omrim, où nous voyons que les Talmidim de Shammai enseignaient la chose suivante, que toutes les femmes, une fois qu'elles sont mortes, doivent être considérées comme étant Nida. Alors, pour quelle raison? La Gemara demande Maï Tamai ou de Bet Shammai. Qu'est-ce qui justifie l'enseignement de Bet Shammai? Inema, si c'est Mishum Nirtiv, parce qu'il est écrit, c'est dans la Megillat Esther, le chapitre 4 et le verset 4, à propos du choc qu'avait eu la reine Esther lorsqu'elle a appris le décret d'Aman, c'est marqué Vatitralcha la Malka. Littéralement, la reine a été épouvantée. Vama Rav, et Rav a enseigné à ce propos, Melamed chez Pirsanida. Ceci enseigne que cette terreur a généré la venue des règles à Hanami, et que nous disons également que dans notre contexte, c'est-à-dire au moment du décès d'une femme, Agav Vietuta de Malcha de Mota, alors qu'elle a la terreur de l'ange de la mort, Chazia, elle saigne. Pourtant, nous avons appris dans une Mishnah que nous avions vu au Daf Lamed Tet de notre Maseret, qu'on disait l'inverse, chez Harada, une femme qui a dû se réfugier à cause de pillards qui sont venus dans la ville, dans une grotte, on peut considérer qu'elle n'a certainement pas eu ses règles. Chez Haradam, ça l'équête est Adamim. Parce que la terreur, elle arrête les saignements. À la Kasha, la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Parda tsamit, une peur qui n'est pas brutale, elle contracte l'utérus et l'empêche de saigner. Biatuta, mais une peur qui est subite, donc une peur subite peut relâcher la totalité de la tonicité des muscles, comme cela est souvent expérimenté dans les guerres, hein, où on n'arrive pas à se retenir. Alors donc, l'Agma dit qu'il n'y a pas de contradiction. Et là, Hadetania. Mais donc, on va chercher une autre raison à ce que dit Beit Shammai. Il y a une braïta qui dit, Beit Shammai omrim, Beit Shammai enseigne, kola anashim metim zavin. Tous les hommes, là il s'agit donc ici d'hommes et non plus de femmes, ils meurent en étant zav. Ou Beit Hillel omrim en zav enami shemet zav. Tandis que Beit Hillel s'oppose également en disant, n'est considéré comme zav après être décédé que celui qui, au moment où il était décédé, était déjà dans ce statut de zav. Ikrekan, en effet, on peut appliquer ici le principe général concernant les avim. Mi besaro, un homme ne devient zav, dans le verset parlant de la ziva des hommes, il est clairement marqué mi besaro, Adam qui est rare, zovo mi besaro. Il faut que ce soit de sa chair, velo mahmat onso, et non pas à cause d'une cause extérieure, quelle qu'elle soit. Et donc, comme l'explique Rashi, si la raison de Beit Shammai, elle était due au fait qu'il y a une frayeur due à l'ange de la mort, pour les hommes, il ne serait impossible qu'ils considèrent qu'ils soient zavim, puisque une cause extérieure ne rend jamais zav un homme, alors qu'on pourrait admettre que ça rend Nida une femme. Il y a donc un problème. Et là, Magma dit donc, Tama de Beit Shammai, donc la raison de Beit Shammai, Kedetania. C'est comme ceci a été enseigné dans une autre Beraïta. Barishona ayu matbilim kelim algabe nidot metot. En fait, on va voir que c'est une xéra des Chachamim. Au début, on avait l'habitude d'amener au mikvé les habits à cause des femmes nidot décédées. C'est-à-dire, lorsqu'une femme était nida et qu'elle décédait, il fallait tremper les habits qui avait été retiré de cette femme avant qu'elle meure, comme le dit Rashi. Vayunidot chayot mitbaishot. Et le fait qu'on doive amener au mikvé ses habits, lorsque la femme est décédée nida, ceci faisait honte aux femmes nidot vivantes. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, elles avaient une honte de voir qu'une femme qui est nida est traitée différemment, même une fois qu'elle est morte, par rapport à ses habits qu'elle portait avant, par rapport à une femme qui n'est pas nida. Et donc ceci faisait honte. Itkinu, les chachamim ont institué, chez Yehu Matbilin Agabekol Anashim, que l'on trempe au mikvé les vêtements de toutes les femmes, Mipnek Vodan Shel Nidot Chayot, afin de respecter la dignité des femmes Nidot vivantes. Et de même, dit cette Braïta, Barishona Yehu Matbilin Agabezavin Metin, au début on avait l'habitude de tremper tous les habits qui avaient été enlevés d'un homme juste avant sa mort, lorsqu'il était mort en étant zav, Vayu Zavin Chayin Mitbaishin, et ceci faisait honte à ceux qui étaient atteints de cette impureté alors qu'ils étaient vivants, ils avaient honte de cela. Itkinu les Chachamim ont décidé, à titre de décret, chez Yehu Matbilin Algabe Kola Anashim, que les habits de toute personne qui est décédée seraient amenés au mikvé, Mipne Kevodan Shel Zavin Chayim, afin de préserver la dignité des Zavin vivants. Nous avons donc ainsi terminé avec cette Mishnah et nous abordons la Mishnah suivante. Là encore, la Mishnah va nous parler du statut d'un saignement d'une femme qui est décédée. Et voilà ce que dit le texte. Aisha Shemeta, si une femme est décédée, Vyatsa Mimena Revi'it Dam, et que s'est échappé d'elle une quantité de sang, donc s'échappe de ses voies génitales, une quantité de sang équivalente à un Revi'it, mais Tamea Mishum Ketem, ce sang est d'abord impur en tant que sang provenant d'une femme Nida, ou Metamea Beoel, et également ce sang rend impur dans une tente en tant que Revi'it Dam, une quantité suffisante de sang d'une personne décédée. Rabbi Yehuda Omer Ena Metamea Mishum Ketem. Rabbi Yehuda lui pense différemment du Tanakama, de l'auteur du début de la Mishnah. Il dit il n'y a pas de Touma à titre de Nida, Mipne Shene Ekar, Mishemeta, étant donné que ce sang et a quitté l'utérus après qu'elle soit décédée. Modé Rabbi Yehuda Yoshevet al-Mashber Umeta. Toutefois, Rabbi Yehuda est d'accord dans un cas similaire, mais où il s'agissait d'une femme qui était en train d'accoucher, ce qu'on appelle Yoshevet Alamashber, donc une femme qui était pendant les douleurs de l'accouchement au Meta, et elle est morte, Veyatsa Mimena Revi'idam, et qu'après cela, elle ait eu un écoulement de sang équivalent à la quantité d'un Revi'it, Shehi Metame'a Mishum Ketem, que là, il y a effectivement la Tum'a de Nida, liée avec l'accouchement. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle était dans le travail de l'accouchement au moment où elle mourait, on considère qu'il est probable que le sang a quitté son utérus pendant qu'elle était encore vivante. Amar Rabbi Yossi lefichach ena metame aborel. Rabbi Yossi dit, si tel est le cas, il est donc logique de dire que ce revit d'âme qui s'est échappé de cette femme qui était en travail d'accouchement n'aura pas la qualité de sang d'un mort, et donc il n'aura pas d'impureté transmise par la tante, c'est-à-dire si une personne se trouve sous le même toit que ce revit d'âme, il n'aura pas d'impureté. Alors la Gemara va voir d'abord d'où est-ce que le Tanakama a appris le din qu'il dit concernant la Tum'a de Nida, de ce sang qui s'était échappé après la mort. La Gemara dit, Michlal et Tanakama Savar. Cela veut donc dire, puisque Rabbi Yehuda disait qu'il n'y a pas de raison de considérer que ce sang est un statut de Ketem, c'est-à-dire de Nida, parce qu'il s'est échappé la femme avant la mort, ça veut dire que Tanakama pense, Afal Gav de Nekardam, Mishemeta, malgré le fait que le sang a été déraciné, c'est-à-dire a quitté l'utérus, Mishemeta, après le décès, Metamea Mishum Ketem, et il a une impureté au titre d'une tache de sang d'une femme Nida. Ceci est étonnant. Amar Zehiri. Alors Zehiri a expliqué, Mekor Mekomo Tame Ika Benayu. La discussion entre eux est de savoir si, comme on l'avait déjà vu par deux fois au moins dans notre Maseret, si l'utérus lui-même est considéré comme une source d'impureté. Comme le dit Rashi, d'après Tanakama, donc l'auteur anonyme du début de la Mishnah, l'endroit de l'utérus est tamé, et donc malgré le fait que le sang soit échappé après la mort, il est considéré comme du sang de Nida, parce qu'il était dans l'utérus du vivant de cette femme. La Gemara continue. Au modé Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il est d'accord, c'était la fin de la Mishnah, n'est-ce pas? Alors la Gemara dit, Michlal de Tanakama Savar Be'oel Nami Metame, du fait que Rabbi Yossi, il nous dit que dans ce cas-là, le sang n'a pas la Tum'a due à une partie d'un cadavre, c'est-à-dire la Tum'at Ohel, celle qui est amenée par le fait d'être sous le même toit, est-ce que ceci ne dit pas que d'après Tanakama Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a la Tum'a Ohel? Et comment est-il possible? La même question, ce sang, il a quitté le corps de la femme alors qu'elle était encore vivante d'après lui. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, attention, Rav Yehuda, ce n'est pas Rabbi Yehuda le Tana dont on discute actuellement du raisonnement. Rav Yehuda est un Amora. Et voilà ce que Rav Yehuda répond. Dam Tevusa Ika Benayu. La discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé concerne le statut d'un certain sang que pour l'instant on va appeler Dam Tevusa, le sang de Tevusa. De Tanya, en effet, une Braïta enseigne. Ezehu dam tevusa. Quel est le sang qui s'échappe d'un mort et qu'on appelle dam tevusa, lequel a une tum'a, qui est une tum'a instituée par les chachamim, alors qu'il n'a pas de tum'a d'après la Torah. Et la Gemara répond, c'est-à-dire la Braïta dit, Piresh Rabbi Elazar bi Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yehuda, a expliqué, Arug, quelqu'un qui a été assassiné, Shiatsa Mimenu Dam, et il a perdu du sang, Ben Bechayav, Ben Bemoto, qu'il était encore vivant ou qu'il soit déjà mort. En fait, c'est-à-dire qu'il il a déjà perdu un revit de sang par cette blessure, mais nous ne savons pas si ce sang s'est échappé de son corps avant ou après le décès de la personne. Nous ne savons pas si le sang est sorti totalement de son vivant ou totalement après son décès, ou peut-être qu'une partie est sortie de son vivant, une partie après son décès. Zehu dam tevusa. Un tel sang est qualifié de Dame Teboussa, et les Chachamim lui imposent une impureté s'il y a une quantité de sang égale à un vihit. Il s'agit évidemment de l'impureté due à une partie d'un cadavre et non pas une impureté liée à autre chose. La Chachamim Omrim, tandis que dans cette Braïta, les Chachamim disent autre chose. Ils disent ce qu'a défini Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Judas, n'est pas cela qu'on appelle Dame de Teboussa. Parce que si tel était le cas, un tel sang qui est un sang qui est en doute, nous avons des règles. Si ce sang se trouve dans un domaine privé, le doute que nous avons est considéré comme allant dans le sens de la rigueur, et on considère ce sang comme étant impur. Si ce sang se trouve dans un domaine public, le doute que nous avons quant à son impureté, on tranche en faveur de l'allègement et on dit que c'est pur. Ceci découle d'une halakha le Moshe Missinaï qui dit que lorsqu'une impureté douteuse se trouve dans le domaine public, on la considère comme pure. Lorsqu'une impureté douteuse se trouve dans le domaine privé, on la considère comme impure. Et donc les Chachamim ne sont pas d'accord avec la définition de Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Yehuda. Et là, mais disent les Chachamim, et c'est où Dame Teboussa? C'est quoi le Dame Teboussa dont on a parlé? Il s'agit de quelqu'un qui a été assassiné et qui a perdu un revit de sang en partie de son vivant et en partie après sa mort, va Daïn Lopasak. Et il s'agit d'un cas où le sang n'a pas encore cessé de s'écouler de son corps. Et alors ça fait Krubo Bechayav ou Mioto Bemoto. Le doute que nous avons est le suivant. Est-ce que la majeure partie de ce revit de sang, il l'a perdu de son vivant, ou Mioto Bemoto, et une partie mineure et donc négligeable après son décès, dans lequel cas il faudrait le considérer totalement comme pur, ça fait, mais on a une autre possibilité, une autre branche de l'alternative, et nous ne savons pas, Mioto Bechayav, peut-être la partie de ce revit qui s'est écoulée alors que la personne était encore vivante, elle est minoritaire, le Rubo Bemoto, et la majeure partie du sang qu'il a perdu, c'était lorsqu'il était déjà décédé. Zéhoudam Tevoussa, c'est ceci qui est considéré comme le sang de Tevoussa, pour lequel les Chachamim, dans le doute, ont donné un statut de Touma Midrabanan. La suite de la Braïta amène l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda Omer, Aruk Shatsam Menorvidam, quelqu'un qui a été tué et qui a perdu un revit de sang, Rayamutal Bemita, et il était allongé sur une civière, le damo metaftef le gouma, et son sang s'écoulait goutte à goutte dans un creux du sol. Tamé, le revit de sang qui est contenu ainsi dans ce trou du sol qui a recueilli le sang qui s'écoulait de cette personne qui a été assassinée, il est impur. Pourquoi?
Mipne, dit le texte, Sheatipa Shelmitam Revet Bo. Parce que la goutte de sang du moment du décès, ce qui semble être le pshat a priori, Shelmita, y est mélangée. En vérité, il ressortirait, notamment de Rashi, qui apparaît dans le Hamoud suivant, que ce n'est pas uniquement la goutte du sang qui s'échappe au moment précis du décès qui rendrait Midrabanan tout ce revit de dame tamé à titre de dame Teboussa, mais c'est plutôt toutes les gouttes qui ont pu s'échapper à partir du moment du décès et ensuite. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a peut-être une majorité de ce sang qui s'est écoulé après le décès. En tout cas, la formulation de la Gemara semble dire que le simple fait que la goutte qui s'est écoulée au moment de la mort soit mélangée dans ce revit suffirait à ce que ceci soit tamem idrabanan. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, va chachamim et taharin. Tandis que les chachamim disent que c'est pur. Pourquoi?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Alors nous allons maintenant tourner la page et passer au 71b, au hamoud suivant. Il reste le mot Mipne, que nous relirons. Ipne chez Rishon, Rishon Nifsak. Parce que, étant donné que ce sang s'écoule goutte à goutte, et ce n'est pas un jet continu, comme le dit Rashi, chaque goutte l'une après l'autre, elle est annulée. C'est le principe bien connu que Rishon, Rishon Batel, lorsqu'on a une quantité importante et qu'une quantité minoritaire d'un produit interdit ou qu'il y a un autre statut, il tombe goutte à goutte. Chaque goutte, une fois qu'elle tombe dedans, elle s'annule. Et c'est pour cette raison que les Chachamim disent qu'il n'y a pas un statut d'interdiction et de Touma'a ici, plus précisément, sur ce sang. La Gemara s'étonne, Shapir ka'amre le Rabbanan, Rabbi Yehuda. Ils ont bien dit les Chachamim à Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que leur argument suivant lequel cela s'annule goutte à goutte, donc chaque goutte qui vient d'après la mort, elle est annulée dans le sang qui était là précédemment et qui n'était pas du sang impur. Et pour que va dire Rabbi Yehuda ? La Gemara répond, Rabbi Yehuda le Tamé. Rabbi Yehuda suit sa propre opinion d'Amar, parce qu'il dit, En dam vatel dam. Le sang ne peut pas annuler du sang. Ceci est, entre parenthèses, une chita, un point de vue permanent de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, en effet, dans la Gemara de Choulin, il dit que Min bemino eno batel. Lorsqu'on a un produit permis, un produit interdit, il peut y avoir annulation du produit interdit si la quantité du produit permis est suffisamment grande. Suivant les cas, qui est une majorité de produits permis, par exemple, ou encore 60 fois plus pour d'autres types de bitoul, d'annulation, mais uniquement quand c'est min, le chénomino, lorsque le produit interdit, qui se mélange avec le produit permis, est un produit, est une substance différente. Mais si c'est le même type de substance, min bemino, il n'y a pas d'annulation. Et donc c'est le cas ici où c'est du sang qui devrait s'annuler dans du sang. D'après Abuda, une telle annulation est impossible parce que c'est la même substance qui s'accumule. Reprenons la suite de la Braïta. Rabbi Shimon Omer, tandis que Rabbi Shimon, lui, il amène l'enseignement suivant dans la Braïta. Salou Valaet. Quelqu'un qui est pendu à un arbre ou à une potence. Chez Damo Sotet Laaret. Et dont le sang s'écoule sur le sol. Venim Tsa Tartav Revi Dam. Si il s'accumule en dessous de ce pendu une quantité d'un revi de son sang, Tamé. Ce sang est impur, toujours pour le même principe, le principe de Dam Tvusa, c'est-à-dire qu'il est considéré comme Tamé Miderabanan. Remarquons en passant que Rabbi Shimon ne dit pas que ça s'est trouvé dans un trou à l'intérieur du sol. Il est possible que ce soit sur une surface plane. Simplement, ici, le sang s'est probablement écoulé de manière continue. Rabbi Yehuda Metayer. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, lui, au contraire, déclare ce sang pur. Pour quel motif? Shani Omer. Car je peux dire, Tipa Shelmita Omedet Lo Al Gavaetz. La goutte de la mort, elle est restée sur la potence. Là encore, cette notion de Tipa Shelmita, de goutte de la mort, d'après certains rishonim, il semblerait qu'il ne s'agit pas exclusivement de la goutte de sang qui est sortie au moment précis du décès, mais de tout le sang qui aurait pu couler après la mort de la personne. Alors il y a lieu de penser, d'après lui, que le sang qui est accumulé au pied du pendu, c'est du sang d'avant la mort, et que le sang post-mortem, en tout cas la goutte de la mort, Tipa Shelmita, est resté sur l'arbre. Dans ces conditions, la Gemara pose une question. Elle dit, Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, Nemaï ou le Nafshe, pourquoi ne se dirait-il pas lui-même? Donc, à titre d'objection, Shani Omer Tipa Shelmita Omedet Al Gavamita, pourquoi je n'aurais pas dit, dans le cas précédent où il y avait quelqu'un qui était sur une civière, que la goutte de sang de la mort est sur la civière, au lieu de dire que ça s'est écoulé dans le sol? Autrement dit, quelle différence entre le cas d'un pendu dont le sang s'écoule et le cas de quelqu'un qui est sur un lit et dont le sang s'écoule? Ma réponse, Shadé Bamita, de Michal Khala. C'est différent dans le cas d'une civière où la civière bouge. En fait, comme l'explique le Rashi, on pense qu'elle bouge en raison des soubresauts que la mort aura provoqués. D'autres rishonim expliquent que Michal Chala, le lit, il est perméable et que le sang qui s'appelle Tipa Shelmita est allé sur le sol à travers la civière. Pour conclure notre Mishnah, nous pouvons donc dire que le cas de cette femme qui était décédée pendant qu'elle était en train d'accoucher sera ainsi analysé par Rabbi Yehuda. Il pense que le vide de sang qui coule de son corps est considéré comme tamé à titre de Dam Tevusa, parce qu'il est possible que ce soit du sang qui se soit échappé de son corps, c'est-à-dire de son utérus après la mort. Tandis que Rabbi Yossé considère que la totalité du sang s'était échappée de son corps, de son vivant. Et par conséquent, d'après lui, il n'y a pas un statut d'âme tevoussa. Nous passons maintenant à la Mishnah suivante. Alors pour comprendre la Mishnah suivante, nous devons revenir sur la notion de dame tahor, dame Torah. Rappelons que toute femme qui a accouché d'une fille ou d'un garçon après 7 ou 14 jours de dame impure, elle a pendant une période qui va jusqu'au 40e jour pour un garçon et jusqu'au 80e jour pour une fille, des saignements éventuels qui sont considérés comme dame tahor, du sang pur. Une fois que les saignements de sang qui la rendent impure, c'est-à-dire de la période des 7 jours qui suivent l'accouchement d'un garçon ou des 14 jours qui suivent l'accouchement d'une fille est terminée, et jusqu'à la fin de la période de Tohar, c'est-à-dire jusqu'à 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille, les saignements suivants étant purs, elle peut aller au mikvé directement après le 7e jour et après le 14e jour s'il s'agit d'une fille, bien sûr. Puis après être allée au mikvé, et avant que la période des 40 jours pour un garçon, des 80 jours pour une fille se soit écoulée, c'est un statut qui s'appelle Tevulatium, et plus précisément Tevulatium Aroch. Elle est Tevulatium, mais pendant une journée qui est très longue, puisqu'elle peut durer jusqu'à 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille. Mais elle a un statut qui s'appelle Tevulatium, qui est le même statut que le Tevulium. Alors, rappelons brièvement ce qu'est le Tevulium. Prenons l'exemple d'un Cohen, par exemple, qui est devenu impur pour une perte séminale. Il doit aller au mikvé, il est impur jusqu'à la fin de la journée. Mais entre le moment où il est allé au mikvé et le moment où la journée s'écoule, une partie de son impureté s'est enlevée. Il n'est plus Rishon Latouma ou Avlatouma, suivant le cas, mais il est simplement Sheni, entre le moment du mikvé et le moment où la journée est terminée. Mais ceci a des conséquences directes. Il lui est interdit, par exemple, de consommer de la terouma avant la tombée de la nuit, donc le Tevulium est interdit de terouma. En effet, la terouma est rendue impure par, et plus précisément psoula, par le contact d'un sheni. Parce que sheni osé shlishi bitrouma, celui qui est d'impureté deuxième peut faire une impureté d'un degré. Donc nous disons, il est sheni la terouma, donc il va rendre la terouma shlishi. Il est sheni, mais si c'est du choulin qu'il touche, le choulin n'est pas du tout rendu tamé par ce contact. Et donc il faut garder en tête, pour comprendre ce que la Mishnah va nous dire, que la femme dont on va parler dans la Mishnah est une Tevulatium Aroch. Elle se situe soit entre le 7e, le 8e jour et le 40e jour, si elle a eu un garçon, entre le 14e jour, c'est-à-dire le 15e, et le 80e jour, s'il s'agit d'une naissance de fille. Elle est déjà allée au mikvé, et cette période de Dame Tohar n'est pas terminée, donc c'est ce qu'on appelle Yoshevet al Dame Tohar. Et pendant toute cette période-là, elle a ce statut de Tevulatium Aroch, qui est très longue, puisqu'elle dure plusieurs semaines, à un din de Tevulatium, de celle qui était déjà au mikvé, mais qui n'est pas encore sortie totalement de la période. Et elle aura également ce statut de Sheni, de degré 2 de Tum'a, qui a donc les spécificités suivantes. S'il s'agit de Choulin, elle peut toucher des Choulin sans aucun effet de Tum'a. S'il s'agit de Terouma, elle le rend pas soul, c'est-à-dire que la Terouma devient Shelichi, ce qui est le dernier degré de Tum'a possible pour la Terouma. S'il s'agit de Kadashim, les Kadashim deviennent Shelichi, mais ça ne s'appelle pas soul, simplement s'appelle Tamé, étant appelé Tamé, ce qui peut rendre encore impur un autre objet ou un autre aliment par contact. En effet, il existe un autre degré de Tum'a, qui est le Revi'i, le quatrième degré de Tum'a dans les Kadashim, qui lui est pas soul, qui est le dernier degré de Tum'a. D'autre part, pour bien comprendre notre Mishnah avant que d'en venir à son texte, nous devons expliquer que bien que nous ayons dit que les choulines, c'est-à-dire les aliments ou les liquides non consacrés, ne peuvent pas devenir impurs en deçà du degré 2, et que donc un tevulium qui touche des choulines n'aura aucun effet d'impureté sur ces choulines, il y a une discussion possible sur des choulines qui ont été préparés en vue de les utiliser dans les sacrifices. Ce qu'on appellera dans la Gemara Choulin Shena Asu al Taharat HaKodesh. Des choulines qui sont faites avec une pureté suffisante pour les utiliser dans le domaine du consacré. Et on verra qu'il y a deux avis. Il y en a qui disent que Kodesh Damu, que ça a le même statut que si c'était eux-mêmes des Kadashim, et que donc Non seulement ils peuvent devenir pasoul en tant que chéni, mais ils peuvent devenir shlishi et revi. Et puis un autre avis qui dit que non, que choulin shenasu al tarat hakodesh, des tels choulin ne sont pas du tout différents des choulin ordinaires, et que par conséquent, ils ne peuvent pas devenir impurs au contact de quelqu'un qui est chéni, puisque chéni est le degré d'impureté le plus bas qui puisse se trouver dans les choulin. Alors muni de ces notions très fondamentales pour la compréhension de la Mishnah, nous abordons celle-ci. Voilà ce que dit la Mishnah. Barishona, dans un premier temps, Hayu Amrim, les Chachamim disaient, Hayoshevet Aldam Taor, une femme qui est dans cette période de Tvulat Yom Arukh, entre la fin des saignements impurs et la fin de la période de Dam Toar, qu'on appelle Yoshevet Aldam Taor, qui est en train d'avoir du sang qui, s'il s'écoule, est pur. Haïta Me'aram Mayim la Pessah. On l'autorisait à verser d'un ustensile dans l'autre sans toucher cette eau, de l'eau qui est rouline, mais qui est destinée, comme le dit Rashi, à laver le Korban Pessah qui lui est Kadashim. Alors quels sont les paramètres qui expliquent cette première partie de la Mishnah? Le fait que dans ce premier temps, les Chachamim pensaient que Choulin Shena Asual Tarata Kodesh, que Kodesh Damu, que cette eau Choulin, elle a le même statut que les Kadashim puisqu'elle est destinée au sacrifice de Pâques qui est un Kadashim, et que par conséquent, il était interdit à cette femme de toucher l'eau elle-même. Par contre, on lui permet de la verser, comme le disent certains commentaires. A priori, c'est évident qu'elle a le droit de la verser si elle ne touche pas l'eau. C'est-à-dire qu'on ne craint pas malgré tout qu'elle touche l'eau, parce que cette impureté éventuelle que l'eau toucherait est quand même midérabanane et qu'il n'y a pas lieu d'être aussi strict que cela. Et donc, au début, on disait que cette femme qui est Tvulat Yom Arukh, elle a le droit de verser l'eau de Pessah, mais pas de la toucher, parce que cette eau qui est Choulin, qui est destinée au Kodesh, elle a le même statut que le Kodesh. Chazrou Lomar, les Chachamim ont ensuite changé d'avis. Et ce changement d'avis, on va voir qu'il est sur deux niveaux. D'un côté, ils ont fait une Khumra. Arei que Magat Tamemet le Kadashim que divrei Bet Hillel. Celui qui a été touché par un Tamemet, Tamemet c'est celui qui était au contact d'un cadavre ou dans la même maison qu'un cadavre, et il est Avatouma. Donc celui qui a été touché par Avatouma, il est Rishon Atouma. Donc Bet Shamay Omrim Af que Tamemet. Bet Shamay va encore plus loin, il la considère même comme le Tamemet lui-même, c'est-à-dire qu'elle est Avatouma. Alors évidemment, ceci devrait et doit aggraver la capacité qu'a cette femme de rendre les aliments ou les liquides impurs, mais, et il y a un mais que la Gemara nous expliquera, c'est que dans cette nouvelle prise de position des Chachamim de la Mishnah, ils ne considèrent plus que Choulin Shedasu al Tarat HaKodesh, que Kodesh Damu, que les Choulin qui sont destinés à l'emploi du Kodesh et donc qu'on préserve dans un certain état de pureté particulier, aient le même statut que ceux qui est consacré, mais c'est que Choulin. Ils gardent leur statut de Choulin. Et ce qui fait qu'en réalité, étant donné que cette aggravation du statut de la Toulatium, autant de la part de Beth Hillel, qui la considère comme une Rishon Touma, qui peut donc faire Chedi, que à forcerie pour Beth Shammai, qui la considère comme Avatouma, et qui donc peut faire Rishon, ceci n'est valable que pour les Kadashim. Ça ne concernerait que, par exemple, le contact direct avec un sacrifice. Mais par contre, puisque l'eau, maintenant, qui est destinée à laver le Pessah, est considérée comme Choulin, Shenaasu, Altarat, Akodesh, Kehoulin, Damou, c'est Choulin, l'aggravation du statut de la femme n'existe pas et elle peut donc directement toucher l'eau. Et maintenant, nous abordons la Gemara, qui va être relativement facile à comprendre compte tenu des préfaces que nous avons été amenés à développer. Je lis la Gemara. Me'ara, in. La Gemara analyse le début de la Mishnah en disant que dans un premier temps, on permettait de verser, oui, noga'at l'eau, mais pas de toucher l'eau, alma. Cela veut donc dire qu'au début, on pensait que choulin shena'asu al-taharat ha-kodesh, que des substances profanes qui ont été faites dans la pureté du consacré, que kodesh d'amou, il y a la même rigueur que les aliments consacrés eux-mêmes, et c'est pour cela qu'elle n'a pas le droit de toucher l'eau, elle peut simplement la verser. Et masefa, maintenant voyons la fin, et on va voir que dans la fin, il y a un point de vue différent. Chazrou Lomar, ils ont changé d'avis en disant, Areik magata memet le kadashim. Elle est considérée comme celle qui a été touchée par celui qui était impur au contact d'un cadavre en ce qui concerne les aliments consacrés. le Kadashim In, pour les aliments consacrés, oui. Donc ça veut dire que la Khumra de Chazrul Omar, tant pour Beth Hillel que pour Beth Shammai, c'est uniquement le Kadashim, pour les sacrifices eux-mêmes. Les Khulin, l'eau, mais pas pour les substances. Khulin, puisque on n'a parlé que de Kadashim. Alma, il en résulte donc que la position de la Mishnah à la fin, dans Chazrul Omar, c'est que Khulin, c'est Nesual Tarata Kodesh, Lav Kodesh Damu. Les substances profanes qui sont destinées à être utilisées avec la pureté de Kadashim, des sacrifices, des aliments consacrés, Lav Kodesh Damu, n'a pas la même rigueur pour le statut d'impureté que le Kodesh lui-même. Enfin, la Gemara fait une autre constatation, Matitin Mani. Quelle est l'opinion qui est suivie par notre Mishnah? Abba Shaouli, c'est celle de Abba Shaoul, de Tania comme une Braïta l'enseigne, Abba Shaoul Omer. Le Abba Shaoul disait, Tevulium, donc ce fameux Tevulium, celui qui a été au Mikvé et qui, pour être totalement pur, n'a plus qu'à attendre la fin de la journée, c'est Chila le Kodesh. Il est considéré par rapport au sacrifice et à tout ce qui est Kadashim, comme Rishon Natuma. Techila, c'est comme Rishon Natuma. Ce qui a pour effet le Tamesh Naïm, l'Ifsol Echad. Il pourra rendre encore impur 2 degrés et arriver au troisième degré qui est pas Soul, c'est-à-dire lui et Rishon Natuma. Il touchera un aliment Kodesh, il deviendra Sheni Natuma et Tamé. Ce Sheni, s'il touche un autre aliment Kodesh, ce troisième aliment deviendra Shlishi Natuma, encore Tamé. Et enfin, le quatrième qui serait touché sera Pasoul, c'est ce qu'on appelle l'Ifsol Echad, parce que Abba Shaoul dit qu'il existe 4 degrés d'impureté pour les Kadashim. La Mishnah suivante dit Umodim chez Yochel et Bemaaser. Les Chachamim, aussi bien Beth Shammai et Beth Hillel, reconnaissent que cette impureté stricte qui a été donnée par les uns et par les autres, avec une différence d'un degré, ne concerne que les Kadashim et éventuellement la Trouma, mais pas le Maaser Sheni. Modim chez Yochel et Bemaaser. Ils reconnaissent qu'en tant que Tevulat Yom Aroch, il lui est permis de manger du maaser, comme le dit Rashi, comme n'importe quel tevulium. Par contre, en ce qui concerne la chala, dont on va parler maintenant, et qui a le statut de la terouma, puisque dans la Torah, lorsqu'on parle du prélèvement de la chala des pâtes, on parle de terouma, d'un prélèvement, et donc ceci c'est un statut de terouma qui peut arriver au degré de Shelichi. Alors là, il y a un problème. Alors voilà comment elle va procéder pour pouvoir prélever de la terouma. Le kotsala chala, il a le droit de mettre de côté dans une pâte qui vient d'être pétrie un morceau pour en faire de la chala, mais elle ne le consacre pas tout de suite à la chala parce que sinon lorsqu'elle le touche elle le rendrait tamé ou makefet. Ensuite elle le rapproche elle le rapproche de la pâte dont elle l'a retiré, le kora la shem, et ensuite en l'ayant mis dans un récipient pour pouvoir la manipuler à travers le récipient et ne plus la toucher ensuite, elle peut lui donner son nom de terouma sans qu'il y ait un problème de contact direct qui la rendrait pas soul. Puis dit la Mishnah, Veim nafal miroka midam taharal kikar shel terouma. Imaginons que cette femme qui est toujours dans ce statut de dame tohar, de tevulat yom aruch, elle est laissée tomber de sa salive ou bien de son sang. On sait que les saignements qu'elle a, y compris ceux de l'utérus, sont purs. Si un tel liquide donc est venu humecter une miche de pain qui fait partie de terouma, ceci reste tahor. En effet, le principe est le suivant, c'est qu'un tevulium ou une tevulatium n'a pas de mayanot. Elle est impure, lui est impur, mais leurs sécrétions ne sont pas impures. Maintenant, encore une autre discussion qui va clore cette Mishnah. Beth Shammai Omrim Tzrichat Tevila Bacharona. Beth Shammai pense que malgré le fait qu'elle a déjà été au Mikvé lorsqu'elle a cessé d'avoir du sang impur après les 7 jours, les 14 jours suivant l'accouchement, elle doit quand même retourner au Mikvé à la fin des 40 jours, des 80 jours. Rashi explique parce que elle a oublié, en quelque sorte, elle a déjà perdu de vue le mikvé qu'elle avait fait précédemment. Et en quelque sorte, Beth Shammai craint que dans sa tête, il y ait la notion que l'on puisse sortir d'une impureté sans aller au mikvé. Alors bien qu'elle soit effectivement allée au mikvé précédemment, il y a un tel délai entre le moment où elle était au mikvé, après, disons, 14 jours, et le moment où elle va pouvoir apporter son korban après 80 jours, qu'elle doit retourner au mikvé. Ou Bet Hillel Omri Menatrichat Tvila Bacharona. Tandis que Bet Hillel dit non, elle est autorisée à consommer de la terouma à la fin de ses 80 jours ou de ses 40 jours sans être obligée de retourner au mikvé. Précisons pour bien comprendre ce qui vient de faire l'objet de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, que ça ne s'applique, comme le disent les commentaires, et Rashi en particulier, qu'à une femme de Kohen. Cette femme de Kohen, en tant que Tevoulium, comme n'importe quel Kohen, n'a pas le droit de manger de la terouma avec ce statut de Tevoulium. Rappelons à nos auditeurs, et ceci nous met en lien d'ailleurs avec Imir Tzachem, le début du nouveau cycle de Daf Hayomi et de la Masechet Berachot, que dans la première Mishnah de Berachot, on nous rappelle que les Kohanim ne sont autorisés à consommer de la terouma après être allés au mikvé que lorsqu'il y aura eu la fin de la journée, à partir de la sortie des étoiles. Donc cette femme, qui était Voulat Yom Aror, si c'est une femme de Kohen, n'est pas autorisée à consommer de la terouma pendant toute cette période de Dam Tohar, puisqu'elle a le statut de Tevoulat Yom Aror. Et donc ce n'est qu'à la fin du 40e soir, du soir de la 40e journée ou du soir de la 80e journée, à la tombée de la nuit, qu'elle est autorisée à manger de la terouma. Et c'est dans ces circonstances que Bet Shammai exige une nouvelle, qu'elle aille à nouveau au mikvé parce qu'elle a oublié le mikvé qu'elle avait fait depuis longtemps. Et qu'en quelque sorte elle a oublié les conditions dans lesquelles on peut consommer de la terouma. Tandis que Bet Hillel ne tient pas compte d'un tel oubli. Elle dit dans la mesure où elle était au mikvé, elle est Voulat Yom Aror. Quand sa journée très longue se termine à la fin des 40 jours, tombée de la nuit suivante, ou à la tombée de la nuit suivant les 80 jours, elle peut immédiatement consommer de la terouma. La Gemara va préciser tous les points de la Gemara, de la Mishnah. Alors, d'abord, elle commence par parler du premier point. Elle a le droit de consommer du maaser. De Amar Mor, en effet, il a été enseigné. Taval ve'ala, celui qui est Tvoulium, qui était impur, qui est allé au mikvé et qui en est sorti, Ochel ve'maaser, il est immédiatement autorisé de consommer du maaser sheni, qui n'a pas le statut de terouma. Suite de la Mishnah, ve'kotsalachala, elle peut couper, détacher de la pâte qu'elle vient de pétrir un morceau de pâte qu'elle destine à la chala. Et la Gemara explique, Khulin a tevulin le chala, lav ke chala damu. Une pâte qui est non consacrée et qui est encore en attente de prélèvement de la chala, ce qu'on appelle tevulin le chala, lav ke chala damu, n'a pas le même statut de sévérité par rapport aux impuretés que la chala elle-même. Et puis on dit makefet. Ensuite, elle le met près de la pâte originale. Alors, les commentaires disent, elle la met dans une assiette et elle met cette assiette à proximité de la pâte dont elle vient d'être détachée. Il y a un marmor. En effet, il a été enseigné pourquoi rapprocher cette pâte destinée à la chala de la pâte de la principale partie de la pâte qui est destinée à la cuisson. À marmar, il a été dit, mitzvah litrom min amukaf. C'est une obligation que la trouma soit prélevée à proximité, moukaf, proche de l'endroit pour lequel elle doit être. C'est-à-dire, ce ne serait pas bien que la terouma soit éloignée de la pâte qu'elle doit, la terouma ici, je dis la terouma, il s'agit évidemment de la chala, soit éloignée de la pâte qu'elle doit contribuer à rendre autorisée à la consommation. Le corps à la chem, à ce moment-là, elle peut qualifier, nommer en quelque sorte cette partie prélevée et dire c'est de la chala. L'agma explique en quoi ceci est nouveau. Salkada tachamina nixor, tu aurais pu penser que le chachamim vont l'interdire, dilma atel minga ba me avraï. On pourrait craindre que cette femme n'en vienne à toucher la chala de l'extérieur. En effet, elle ne peut pas toucher la chala qui a un caractère de terouma, puisqu'elle est tvoulatium et qu'une tvoulatium ne peut pas toucher la trouma. Kamashmalan, la Mishnah va nous apprendre ici un allègement, que les Chachamim ne demandent pas que ce soit quelqu'un d'autre qui est pur, qui donne le nom de Chala à cette pâte prélevée, mais la femme elle-même peut le faire. Suite de la Mishnah, Veimna Falmeroka, et si de sa salive est tombée sur la trouma, la trouma est pure. Et explique Agmara, Detnan, en effet une Mishnah qui est dans la Maseret Tevulium, dans le deuxième chapitre, la première Mishnah nous enseigne, Mashket Vulium, Kemashkin Anoge Abaem. les liquides émis par le Tivulium ont le même statut que les liquides qu'il a touchés. Velu, velu, enam, metamin. Et les unes comme les autres de ces liquides, de ces sécrétions, ne rendent pas impures. Routz, mimashke, azav, shehuratuma. Bien entendu, ceci est en dehors d'un zav qui, lui, a une impureté très différente et dont les sécrétions, non seulement sont impures, mais sont avatuma, sont générateurs de tuma au premier degré. Suite de la Mishnah citée, Bet Shammai, donc cette discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant la nécessité d'aller au mikveh une deuxième fois, Maï Benayou, la Gemara demande la question, quelle différence y a-t-il entre eux? Amar Ravkina, Ravkina a répondu, Tvulium Aroch Ika Benayou. La différence entre eux est de savoir quel est le statut de celui qui a eu été Tvulium pendant une période très très longue. Nous avons expliqué ce que représentait cette discussion et ce que veut dire la Gemara. C'est que le problème n'existe que dans ce cas de Tvulium Aror, mais une pareille discussion n'existerait pas dans le cas d'un Tvulium ordinaire, c'est-à-dire que Beth Shammai ne requiert pas qu'un Kohen qui aurait fait le mikvé tôt le matin, pendant une longue journée d'été par exemple, soit obligé de retourner au mikvé le soir au moment de Erev Shemesh. Nous passons ainsi à la Mishnah suivante. Et pendant cette Mishnah, nous l'abordons avec une certaine gravité, d'abord parce que c'est la dernière Mishnah qui soit commentée dans cette Maseret, et donc c'est la dernière Mishnah qui soit commentée dans le Talmud Bavli. Elle constitue donc le sioum de l'ensemble du Talmud. D'autre part, son sujet est relativement difficile. Pour bien la comprendre, nous allons devoir rappeler un certain nombre de notions que nous avons vues au long de cette Maseret, et notamment la notion de Shomer et Yom Keneged Yom. Alors rappelons premièrement, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, que les saignements qu'une femme a à des moments normaux lui donnent un statut de Nida pendant les 7 premiers jours, et qu'ensuite pendant les 11 jours qui suivent et qui sont considérés comme des moments où elle ne devrait pas normalement saigner, elle est susceptible de devenir Zava si elle a 3 jours consécutifs de saignement. Toutefois, ces 3 jours consécutifs de saignement doivent être inclus dans cette période de 11 jours. Il en résulte que nous allons avoir des situations particulières dans le cas où les saignements n'auront commencé que le 10e ou le 11e jour. En effet, le 12e jour ne faisant plus partie de la période dite période de Zava, il n'est pas susceptible de s'adjoindre au précédent pour lui donner le statut de Zava Gdola. D'autre part, si elle a saigné le 10e jour ou le 11e jour, la Mishnah parlera d'abord du cas du 11e jour plutôt, elle est cependant tenue de faire la procédure de Shomer et Yom Keneged Yom. Alors rappelons ce qu'est Shomer et Yom Keneged Yom. Une femme qui pendant ces 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida a le saignement pendant un jour ou deux jours, elle doit avant d'aller au mikvé, attendre une journée, yom keneged yom, une journée pure, correspondant à la journée précédente où elle a saigné, où elle était impure, avant de pouvoir aller au mikvé. Et ici va se poser le problème avec un désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel, du statut de shomeret yom keneged yom éventuel pour une femme qui aurait saigné le dernier jour de la période des 11 jours. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Je signalerai au passage brièvement lorsque nous tournons la page. Aroa Yom Achad Asar, une femme qui a eu un saignement le 11e jour de cette période. Le Tavla La Erev. Et alors au lieu d'attendre ce qu'elle aurait dû faire le lendemain, le 12e jour, pour faire Shomeret Yom Keneged Yom, elle est allée directement au Mikvé le soir, à la fin du 11e jour. Oume Shamsha, et elle a eu une relation avec son mari. Alors nous avons deux attitudes. Beth Shammai Omer, Beth Shammai dit, Metamein Mishkam Moshav, aussi bien l'homme que la femme, vont rendre impurs les sièges et les lits sur lesquels ils se sont installés. Le Chayavin Bekorban, et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas attendu, qu'ils n'ont pas fait de Shmira, qu'il n'y a pas eu de Shmira du 12e jour que Beth Shammai exige, malgré le fait que ce 12e jour ne fasse plus partie des jours de Ziva, Chayavin Bekorban, ils doivent apporter un Korban Khatat.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.